Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la parabole du serviteur sans pitié que nous venons d'entendre nous présente trois scènes différentes. Première scène avec deux acteurs, le roi et son serviteur. Ce serviteur, employé de conditions libres ou fonctionnaire, doit à son souverain une somme astronomique, dit 1000 talents, ce qui faisait 60 millions francs or. Le maître ordonne de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants, pour venger sa déception, mais aussi ses biens, propriétés, œuvres d'art, esclaves, pour réparer le dommage matériel. Le débiteur se prosterne aux pieds du roi et promet de tout payer si on le maintient en grâce. Il demande du temps. Il a des biens, des amis, et sa fonction doit compter de larges possibilités. La compassion du roi et l'acquittement qu'il prononce indiquent une grande bonté, un grand pouvoir. Le geste est vraiment royal. C'est la remise totale. Et pourtant, son geste était inattendu. Il y a quelques instants, il voulait tout simplement réduire à l'esclavage son ministre avec tous les siens. Et voici qu'il lui fait un cadeau de 60 000 francs or. Que s'est-il passé entre deux décisions si contraires? L'inculpé a demandé grâce. Scène 2. À peine notre Seigneur vient-il d'exciter notre admiration en nous montrant l'extraordinaire munificence du roi, qu'il soulève notre indignation en décrivant l'intolérable dureté de cœur de celui qui venait d'être l'objet d'une si grande miséricorde. On vient de le libérer d'une dette de 60 millions. Il garde tous ses biens et sa liberté. Il devrait déborder de joie et chercher à la faire partager autour de lui. L'occasion se présente. Voici qu'en sortant du palais, il rencontre un subalterne qui lui devait 100 deniers. Somme de quelque importance pour le petit employé, mais tout à fait insignifiante pour le haut fonctionnaire. 100 deniers, un 600 millième de ce qu'on vient de lui remettre. Il ne prend même pas le temps d'être poli, ne demande rien, mais passe immédiatement aux actes, saute à la gorge de son compagnon, n'écoute pas sa promesse de tout payer, sa prière d'avoir patience, et le fait jeter en prison jusqu'à ce que des amis soient venus payer sa dette. Scène 3. Les compagnons du serviteur mis en prison ont tout rapporté au roi. Celui-ci ne fait pas de longs commentaires. Il fait comparaître son débiteur d'hier. Sans lui donner le temps de dire un mot d'excuse, il condamne sa conduite. « Serviteur méchant, » dit-il. Lorsqu'il s'était présenté la première fois, avec son énorme déficit, il ne l'avait pas qualifié ainsi. Le roi rappelle l'effet de sa munificence. « Je t'ai remis toute ta dette et l'occasion parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'avais eu pitié de toi ?» Il n'est pas question de justice. En droit strict, il pouvait faire emprisonner son débiteur. Mais dans la circonstance, le roi considère que cette justice rigoureuse est une souveraine injustice. Et dans sa colère, le maître le livra au tortionnaire. Le misérable ne peut plaider innocent. Puisque le roi ne se place pas au point de vue de la justice, mais de la miséricorde. En étant dur envers son compagnon, il a préparé la formule de son propre jugement. Il est mis en prison et soumis à des séances de torture, non parce qu'il a des aveux à faire, mais par punition. Le texte ne dit pas si le méchant serviteur jeté en prison réussit à se libérer par l'acquittement intégral de sa dette, mais il donne à entendre que non. L'enseignement de la parabole nous révèle comment Dieu se comporte à l'égard de ceux qui refusent de pardonner du fond du cœur. Si nous sommes sans pitié envers ceux qui implorent leur pardon, Dieu nous traitera comme le roi son serviteur. Bonne occasion, chers fidèles, de dire quelques mots à propos du pardon des injures et surtout des motifs qui nous obligent à pardonner. Le premier motif, celui qui ressort de notre parabole, est que pardonner est dans notre propre intérêt. Dieu nous traitera comme nous aurons traité les autres. Le deuxième motif, c'est la reconnaissance qui nous oblige à pardonner. Reconnaissance envers le bon Dieu. Tout péché mortel est une dette de 1000 talents. À laquelle ne pouvons satisfaire, nous pouvions être condamnés à des tourments éternels. Dieu, tout miséricordieux et indulgent, a effacé toutes ses obligations autant de fois que nous l'en avions supplié en confession. Est-ce donc raisonnable que nous soyons plus rigoureux envers nos frères que Dieu ne l'a été envers nous? Enfin, le troisième motif qui devrait nous pousser à pardonner les injures, c'est l'exemple de Dieu lui-même. Souvenons-nous des paroles de notre Sauveur attachées à la croix, paroles prononcées en faveur de ses ennemis. Pater, Père. Il l'appelle son Père, non son Dieu ni son Seigneur, parce que dans cette occasion, il a besoin de la bonté d'un Père et non de la sévérité d'un juge. Pater ignoce, Père, pardonnez. Comme s'il disait, moi qui suis votre Fils, je pardonne, quoique je souffre dans toutes les parties de mon corps. Pardonnez aussi. Pater ignoce illis, Père, pardonnez-leur. À eux, à ceux qui m'ont traité si cruellement et si injustement. À Pilate, qui m'a condamné contre ses propres lumières. Aux princes des prêtres, qui m'ont livré entre ses mains par haine et par envie. Aux bourreaux qui m'ont attaché à la croix. À tout ce peuple qui a demandé ma mort, à tous les hommes qui en sont la cause. Père ignoce illis, non enim sciunt quod faciunt. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne peut justifier leur crime, il l'excuse sur leur ignorance. Pour finir, chers fidèles, voici une histoire qui nous montrera comment pardonner à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant le règne de l'empereur Othon Ier, les grands vassaux se révoltèrent à plusieurs reprises. À leur tête se trouvait même le duc Henri, frère de l'empereur. Vaincu en différentes rencontres par Othon, trois fois condamné à mort, mais gracié à la prière de sa mère Mathilde, il se révolta une quatrième fois. L'empereur courroucé ne voulut plus entendre parler de pardon. Bien qu'ayant perdu tout espoir, Henri se laissa persuader par sa mère de tenter un dernier effort pour obtenir sa grâce. C'était la veille de Noël. Othon Ier assistait avec les grands de l'Empire à la messe de minuit. Après l'élévation, Henri paraît dans la cathédrale en habit de pénitent, s'avance vers l'autel et se jette aux pieds de l'empereur. Othon fixe sur lui un regard sévère et lui dit « 3 fois déjà je t'ai pardonné, n'en demande pas davantage. Dans 3 jours, ta tête tombera. » En ce moment, le célébrant ouvrit l'évangile et lut à haute voix le passage qui fait l'introduction à la parabole du serviteur sans pitié, où saint Pierre demanda à Jésus-Christ « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il pêche contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et où Jésus-Christ répond « Je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » À ces paroles, l'empereur se sentit touché jusqu'aux larmes. Et non seulement il pardonna à son frère rebelle, mais il le serra dans ses bras et lui donna le duché de Bavière. En du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.